France Inter, franceinter.com.
C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple.
Ans d'histoire. Il y a 50 ans, jour pour jour, le 4 septembre 1958, place de la République à Paris, le général de Gaulle, que l'on vient d'entendre, présentait le projet d'une nouvelle constitution sur laquelle les Français étaient appelés à se prononcer par voie de référendum. Revenu au pouvoir 3 mois plus tôt, à la suite d'une révolte des pieds-noirs et de l'armée, qui exigeait la formation d'un gouvernement de salut public s'engageant à garder l'Algérie française, de Gaulle avait obtenu les pleins pouvoirs pour mettre en place une nouvelle constitution. Car ce qui comptait pour lui, plus encore que l'aggravation de la situation en Algérie, c'était de mettre un terme au régime qui en était à ses yeux responsable, la 4e République, que l'instabilité ministérielle et l'impuissance de l'État rendait incapable de résoudre toutes les difficultés auxquelles la France était confrontée depuis 1945. Et c'est pourquoi le 19 mai 1958, avant même de revenir au pouvoir, de Gaulle n'avait pas caché son intention de donner à la France de nouvelles institutions.
Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi, ce peut être le début d'une espèce de résurrection. Voilà pourquoi le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile, encore une fois, directement à la France.
Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales ?
Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales ? Je les ai rétablies. Et ai-je une seconde à tenter ? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?
Serge Bastal, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était le général de Gaulle mettant les rieurs de son côté à un moment très important de notre histoire. C'était le moment où il allait revenir au pouvoir pour mettre en place une nouvelle constitution, celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la 5e République. C'est ce que vous rappelez dans un livre collectif écrit au Seuil, sous votre direction et celle de Michel Vinocq, « La République recommencée ». Autrement dit, l'histoire politique de la France depuis 1914 jusqu'à aujourd'hui, un siècle pendant lequel la France a connu 3 républiques, la 3e, la 4e et celle-ci, la 5e. Et c'est le moment, ce qu'on vient d'entendre, c'est au moment où justement on va passer de la 4e à la 5e République, une 5e République voulue par le général de Gaulle, parce que depuis sa naissance, il détestait, enfin depuis la naissance de la 4e République, il n'avait cessé de la critiquer. D'ailleurs, elle était de plus en plus impopulaire parce qu'elle était impuissante. Il faut peut-être nous rappeler en quoi ces institutions de la 4e rendaient le régime justement totalement impuissant à résoudre les grands problèmes, dont la crise algérienne.
La 4e République est un système qui correspond à ce qu'on peut appeler la tradition républicaine française depuis le 19e siècle, c'est-à-dire un système dans lequel on se méfie du pouvoir exécutif, du président de la République ou du président du Conseil, qui a été une
création de pratique. C'est le nom qu'on donnait au Premier ministre à l'époque.
Oui. C'est le Premier ministre de l'époque. Dans la mesure où l'un et l'autre apparaissent par rapport à une culture politique qui a trouvé ses racines dans la Révolution française, comme des successeurs du monarque qu'on a déposé le 10 août 1792. Alors, il est clair que cette République, elle est, selon la tradition républicaine, complètement dominée par le Parlement, et en particulier par la Chambre basse, la Chambre des députés sous la 3e, l'Assemblée nationale sous la 4e, où une multiplicité de partis se réunissent pour former des majorités provisoires, avec comme résultat les chutes répétées de gouvernement, l'instabilité ministérielle, et par conséquent, l'impossibilité de traiter au fond les problèmes graves qui se posent au pays, et en particulier en 1958, le problème de la guerre d'Algérie, qui semble à peu près insoluble, dont on ne voit pas du tout par quel biais on pourrait arriver à la résoudre.
D'ailleurs, tout le monde est conscient des faiblesses de cette quatrième. Même les présidents du Conseil, les premiers ministres de l'époque, avaient déposé ou avaient envisagé de réformer la Constitution. De Gaulle le fait au moment où l'armée d'Algérie fait appel à lui pour qu'il vienne au pouvoir. Mais on se méfie justement de lui. S'il dit « Pourquoi voulez-vous que je commence une carrière de dictateur ?» c'est parce qu'on le soupçonne de vouloir le devenir. À quoi correspond cette méfiance vis-à-vis du général de Gaulle?
On est toujours dans le cadre de la tradition républicaine, c'est-à-dire d'une tradition où le véritable pouvoir, c'est l'assemblée, souvent anonyme, des parlementaires élus par le peuple souverain. Et les présidents du Conseil, on ne sait pas toujours quel est leur nom, parce que quelques-uns ne restent que quelques jours, et l'opinion suit très mal ce problème. Alors, il faut bien voir que ce système est profondément imprégné dans la culture politique des Français, c'est-à-dire que pour eux, il ne peut pas y avoir de république si le Parlement ne domine pas, et qu'une république qui aurait à sa tête un pouvoir exécutif fort, soit du Premier ministre, soit du Président de la République, ce ne serait plus une république, ce serait, certains vont jusqu'à dire, une dictature. Et c'est la raison pour laquelle le général de Gaulle étant ce qu'il est, avec l'immense prestige qui résulte de son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'autre part, étant donné les idées qu'il a émises au début de la 4e République, eh bien, on sait bien que s'il revient au pouvoir, ce ne sera pas pour s'incliner devant les vues des parlementaires.
Il y a aussi les circonstances, hein, Serge Berstein, puisque s'il est question de lui pour revenir au pouvoir, c'est à la suite d'un coup de force militaire, il faut bien l'appeler comme ça en Algérie, et on se dit, tiens, il va être le jouet des militaires, il va mettre en place un régime autoritaire. Enfin bref, on s'en méfie, c'est ce qui d'ailleurs va faire traîner la crise pendant plusieurs jours, entre le 13 mai, date du déclenchement de cette insurrection à Alger, et le 29 mai, date à laquelle le président de la République, qui sous la 4e en théorie n'avait aucun pouvoir, sort de sa réserve pour faire lui-même appel au général de Gaulle au moment où, dans les rues de Paris, au même moment, on manifestait contre son retour au pouvoir.
Ici le palais de l'Élysée, où l'on vient de nous distribuer le texte du message du président de la République au Parlement. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du Parlement, je demande au général de Gaulle de bien vouloir venir conférer avec le chef de l'État et d'examiner avec lui ce qui, dans le cadre de la légalité républicaine, est immédiatement nécessaire à un gouvernement de salut national et ce qui pourra, à échéance plus ou moins proche, être fait ensuite pour une réforme profonde de nos institutions.
Dans l'intervalle de temps compris entre l'acceptation de Gaulle et son investiture, on vit soudain monter la fièvre de Paris. Paris, qui était pendant de longs jours demeuré dans l'expectative, manifestait maintenant pour ou contre de Gaulle.
De Gaulle ne passera pas ! De Gaulle ne passera pas !
Vive la République !
Et c'était donc une manifestation, contre le retour du général de Gaulle au pouvoir, au moment précis où le président de la République de l'époque, René Coty, faisait appel à lui. Mais c'est vrai qu'il a quand même beaucoup d'adversaires. La gauche, notamment, est très divisée à son sujet. Le Parti communiste est hostile à son retour. Et même dans la gauche non socialiste, non communiste, il y a des adversaires.
Tout à fait.
On a entendu le nom de Pierre Mendès France, par exemple.
On a entendu le nom de Pierre Mendès France, qui est un vieux radical, un républicain de tradition, et pour qui la République ne peut pas s'accommoder d'un président tout-puissant. On pourrait citer le nom de François Mitterrand, qui fait partie des républicains de gauche, disons à l'époque, et qui a à peu près la même analyse des choses. Alors, il faut bien voir qu'en dehors des syndicats, qui sont pratiquement tous contre De Gaulle. Au sein des partis politiques, ce ne sont que des minorités. Une minorité de radicaux autour de Mendès France, une minorité de socialistes autour de gens comme Édouard Depreux, par exemple, qui quittera d'ailleurs le Parti socialiste à cette occasion. Des gens assez isolés, quelques syndicalistes, mais en gros, des groupes minoritaires au sein des partis. Tous les grands partis politiques, sauf le Parti communiste, ayant pris parti pour le retour de De Gaulle au pouvoir, et en particulier par crainte de ce front populaire c'est le cas de Guy Mollet, que les manifestants réclamaient.
Alors justement, il faut rappeler aussi une chose. Lorsqu'il est question que De Gaulle devienne président du Conseil, chef du gouvernement, pour justement faire une nouvelle constitution, à l'époque, il n'a pratiquement pas de gaullistes à l'Assemblée nationale. Il y a soit un petit groupe qui s'appelle les Républicains sociaux. Donc il faut qu'il puisse s'appuyer sur des partis politiques qui vont l'investir comme président du Conseil. Et c'est là où, justement, vous le rappelez, Serge Berstein, il y a une partie de la gauche socialiste, radicale, et puis la droite avec le Centre national des indépendants qui est derrière. Par exemple, il y a le chef du Parti socialiste, de la SFIO, comme on l'appelait à l'époque, Guy Mollet, qui approuve le retour au pouvoir de De Gaulle. Il y a même d'ailleurs celui qui va lui laisser le pouvoir à Matignon, Pierre Pflimlin, qui est centriste.
Tout à fait. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il faut bien voir à quel point la 4e République se sent dans l'impasse à ce moment-là. Il n'y a plus de solution. Les fonctionnaires n'obéissent plus à l'État. Les militaires n'obéissent plus à l'État. Les policiers n'obéissent plus à l'État. Tout le monde réclame De Gaulle au pouvoir. Et par conséquent, le problème, c'est que faire ? Il est clair que le régime de la 4e République est en train de s'effondrer. Et Guy Mollet, par exemple, ne veut absolument pas d'un front populaire avec les communistes. Pas plus, d'ailleurs, bien entendu, que les dirigeants du Parti radical ou que Pierre Pflimlin, qui est le président du MRP, du Mouvement républicain populaire.
Et c'est pour cette raison que le 1er juin, c'est avec une majorité à l'Assemblée nationale que le général de Gaulle devient président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, dernier président du Conseil de la 4e République, donc le 1er juin 1958.
Oui, et il faut ajouter d'ailleurs dans des conditions tout à fait particulières, puisqu'il a fait une déclaration et il s'est retiré pour ne pas assister au débat, pour bien montrer qu'il n'était pas à la botte de cette Assemblée nationale.
Devant l'Assemblée nationale, par 329 voix contre 224, le général de Gaulle devenait le président de Gaulle. Aussitôt se tenait à l'Élysée la première réunion du nouveau Conseil des ministres, appelé à prendre dans le plus bref délai des décisions importantes qui engageront l'avenir du pays.
Actualité de midi.
Les trois grands moyens d'action que le président de Gaulle estimait indispensables lui sont maintenant définitivement accordés par le Parlement. Il s'agit, vous le savez, de la prorogation des pouvoirs spéciaux en Algérie, des pleins pouvoirs pour 6 mois, du droit de réformer la Constitution et de la soumettre directement au pays par référendum. Le président de Gaulle a donné des assurances à l'Assemblée en disant que son projet de réforme sera un couronnement, une suite des institutions de la République et que son gouvernement, s'il l'a fait, c'est pour que la République continue.
Et ça, c'était le 3 juin 1958, car non seulement le 1er juin, De Gaulle devient président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement, mais il demande et il obtient le lendemain les pleins pouvoirs pour régler la question en Algérie. Et puis, chose très importante à ses yeux, beaucoup plus importante que tout le reste, le 3 juin, il obtient le droit de réformer la Constitution. Il y attache plus d'importance, Serge Berstein, vous le dites, que le règlement de la question algérienne pour lequel pourtant on l'avait appelé au pouvoir.
C'est ça, parce que pour lui, la question algérienne est un événement parmi d'autres, que la modification des institutions et la mise en place d'un gouvernement qui gouverne, comme il dit, permettra de résoudre au même titre que tous les autres. Et par conséquent, c'est effectivement ce qui lui importe. Alors, c'est vrai que ce vote du 3 juin 1958, des premiers 3 juin 1958, évoque une sorte de capitulation de la République parlementaire devant un homme providentiel et peut faire penser à la limite que, somme toute, c'est la réédition de ce qui s'est passé le 10 juillet 1940, lorsque
la Troisième République a abdiqué devant Pétain.
Alors, ce qui fait la différence, c'est que le 3 juin, il y a une loi qui encadre, en quelque sorte, la future Constitution. Alors, il y a 5 règles que le général de Gaulle s'engage à respecter, dont les deux plus importantes sont la séparation des pouvoirs, ce qu'il demande, c'est-à-dire que le gouvernement ne dépende plus uniquement de l'Assemblée nationale, et puis ce que les partis ont obtenu, le maintien du régime parlementaire.
Qui a rédigé, donc pendant l'été, après cette investiture, la Constitution, parce que c'est évidemment De Gaulle qui en inspire les grandes lignes, mais il y a eu, toute, vous le rappelez, toute une série de gens qui ont joué évidemment un rôle considérable, d'ailleurs dont des politiques, justement de la 4e, Guy Mollet, Pierre Flimelin ont joué un rôle.
C'est ça, il y a eu un conseil, l'autre ministre d'État. Mmh. Hein. Alors, c'est rédigé en gros par des juristes, hein, une équipe de juristes, sous la direction de Michel Debré, lui-même juriste et gaulliste fervent, et qui va mettre en quelque sorte en forme les idées que lui inspire le général de Gaulle et que le général de Gaulle contrôle. Mais auparavant, et c'est le caractère de compromis de ce texte de 1958, le texte est soumis au ministre d'État, dont les deux principaux sont Guy Mollet, le chef du Parti Socialiste, et Pierre Flimelin, l'ancien président du Conseil et le chef du MRP. Et par conséquent,
grand parti à l'époque,
c'est l'essentiel. Oui. Il y aura ensuite une consultation des groupes parlementaires, elle est de pure forme et le général de Gaulle ne tient d'ailleurs aucun compte de leurs remarques.
Et puis donc le texte est rédigé pendant l'été, 92 articles donc qui sont adoptés par le Conseil des ministres le 3 septembre 1958 et qui doivent être soumis aux Français qui devront se prononcer par référendum sur cette constitution. C'est ce que leur demande le général de Gaulle le 4 septembre 1958, place de la République à Paris.
C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Nous l'avons fait pour le peuple que nous sommes, au siècle et dans le monde où nous sommes. De tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Avant les communards, s'il vous plaît, avant de nous séparer, tous ensemble, chantons l'hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les soldats sont levés, les soldats sont levés.
Et c'était le général de Gaulle devant une foule considérable, annonçant cette constitution le 4 septembre 1958. Place de la République à Paris. Il va de soi, Serge Berslin, que le choix de la date, 4 septembre, et du lieu ne sont pas du tout innocents.
Bien entendu. C'est la réponse aux accusations de dictature possible, voire de fascisme, que certains avaient lancées. Par conséquent, le général de Gaulle n'hésite pas sur la masse des symboles pour montrer que c'est la République qui continue. Alors, effectivement, le 4 septembre 1958, la date est celle de la fondation de la 3e République. Donc, c'est l'anniversaire en quelque sorte, de la République,
voilà,
et la République recommence, hein, après l'échec de la 4e. Sous la statue de Dalou représentant la République, c'est devant une aide garde républicain, c'est sous de vastes panneaux marqués RF, République française. Clairement, c'est le système républicain que général de Gaulle entend mettre en avant.
D'autant plus que c'est le peuple qui doit se décider, parce que De Gaulle propose cette constitution, c'est le référendum. Et alors un référendum, ce qui augure bien de l'avenir de cette République, qui est approuvé par 80% donc des Français. On a rarement vu autant, il y a eu très peu d'abstention, 80% de oui, quelques non. Alors, on n'a pas le temps, bien sûr, de passer en revue les 92 articles de cette constitution. En quoi se distingue-t-elle de la précédente? Qu'est-ce qui est le plus important là-dedans? Vous le dites, Serge Berslin, c'est d'abord le rôle prééminent que n'avaient pas les anciens présidents de la République, du président de la 5e République.
Tout à fait. Alors, c'est quelque chose tout à fait fondamental. On peut considérer qu'il y a basculement, renversement complet de la hiérarchie des pouvoirs par rapport à la 4e République. Fait significatif, dans la constitution de la 4e République, le président de la République apparaît au titre 7. Dans la constitution de la 5e République, il apparaît au titre 2, immédiatement après le titre 1 de la souveraineté, qui déclare que c'est le peuple souverain qui décide effectivement de la politique de la France. Donc il y a de ce point de vue un renversement complet. le président de la République est muni de pouvoirs extrêmement importants. Il est, et ça c'est le compromis désigné par 80 000 notables et non pas par le Parlement, parce que le général de Gaulle ne veut pas que l'exécutif émane du Parlement. Et puis il a des pouvoirs considérables.
Ce n'est que plus tard, petite parenthèse, ce n'est que plus tard en 62 que le président de la République sera élu au suffrage universel, ce qui lui donnera une plus grande légitimité encore.
Mais on peut considérer que c'est dans la logique du système de la Ve République, mais que les circonstances de 58 l'ont obligé à passer un compromis provisoire. Et par contre, le Parlement qui occupait de toujours, peut-on dire, sous toutes les républiques françaises, une place absolument prééminente, voit désormais, n'est absolument pas supprimé, il conserve le droit de voter les lois, de voter le budget, et même de contrôler le gouvernement, c'est les trois grandes missions d'un Parlement, mais elles sont étroitement limitées, cantonnées, et on peut dire qu'en gros, Parlement est désormais dans une situation subordonnée par rapport au chef de l'État.
Il peut être dissous par le chef de l'État. Le gouvernement peut également passer au-dessus de lui. Il y a ce fameux article 49.3 qui permet au gouvernement de faire passer une loi sans vote. Hein,
absolument.
Il serait contesté aussi à l'époque. Il y a pour le président de la République un article qui a fait beaucoup parler de lui, l'article 16, qui lui permet d'avoir des pouvoirs exceptionnels en cas de menace sur les institutions ou l'intégrité du territoire. De Gaulle, il faut le rappeler, enfin même de tous les présidents de la République, il a été utilisé une seule fois contre les putschs des généraux en 61. Hein, donc il n'a pas été utilisé en 68, par exemple.
Mais en revanche, on peut dire, par exemple, qu'au niveau de la subordination du Parlement, dont, au fond, le rôle majeur, c'est éventuellement de pouvoir renverser un gouvernement par le vote d'une motion de censure, droit que le Parlement conserve, mais qui ne sera utilisé qu'une seule fois sous la Ve République, en 1962, pour renverser le gouvernement Pompidou. Après, la création de partis majoritaires fera que jamais une nouvelle motion de censure ne sera votée. Il n'y en a pas eu depuis 46 ans.
Mais on pourrait presque parler, vous dites que ce n'est pas le cas, d'un régime présidentiel. Il y a en tout cas une ambiguïté que vous rappelez, c'est les rôles respectifs au sein de l'exécutif entre le président de la République et le gouvernement. Par exemple, article 20, le gouvernement définit et conduit la politique de la nation. Alors qu'est-ce qui gouverne dans l'exécutif? C'est le président ou c'est le premier ministre?
Alors, la Constitution ne tranche pas. Elle laisse planer là-dessus une ambiguïté et le résultat, c'est que c'est la pratique qui s'est chargée de trancher ce que le texte ne disait pas. Et clairement, comme c'est le général de Gaulle qui va établir la jurisprudence, eh bien ce sera le président qui gouverne et le premier ministre étant au fond la conception du pouvoir du général de Gaulle pour des raisons d'efficacité, c'est celle de la chaîne de commandement militaire. Le président est le général qui décide, le premier ministre, c'est le chef d'état-major qui met en musique, et puis les ministres sont les dirigeants d'unités administratives, cette fois, qui ont à mettre en pratique ce qui est décidé.
Alors, cette constitution est donc approuvée par les Français le 28 septembre 1958, reste maintenant à la faire fonctionner. On va commencer d'abord par les élections législatives, le 23 novembre. Alors là, il y a un bouleversement de la carte politique, parce que tous les partis de la 4e République en prennent un coup, si je puis dire. C'est au profit d'un nouveau parti, créé pour l'occasion par De Gaulle, l'Union pour la Nouvelle République,
l'UNR. La Nouvelle République, et que De Gaulle ne crée pas, parce qu'officiellement, il entend l'ignorer. Mais c'est bien entendu son entourage qui met le système en place.
Et qui obtient donc le plus de députés, 198 députés. Il y a ensuite la droite avec laquelle ils vont s'allier, le CNI qui a 133, puis les socialistes, le MRP, tout ça. Les communistes, quand même, il y a un système de vote qui fait que les communistes qui ont quand même 19% des voix ont très peu de députés. Hein, je crois
10.
Oui, à peine, hein, parce que ça, c'est à cause du système majoritaire. Et puis alors, on désigne ensuite le président de la République, élu à l'époque par un collège, vous l'avez dit, de 80 000 grands électeurs, qui vote pour le général de Gaulle, élu en décembre 1958, mais qui prend ses fonctions le 8 janvier 1959.
Le premier des Français est désormais le premier en France. C'est par ce juste et saisissant raccourci que M. René Coty, dans son dernier discours officiel, a salué l'entrée à l'Élysée du président Charles de Gaulle, premier président de la Ve République et de la Communauté. Sur le chemin qui va de l'Élysée à l'Arc de Triomphe, la présence côte à côte des deux présidents était un symbole dont le peuple de Paris, en confondant René Coty et Charles de Gaulle dans le même hommage, a souligné le sens profond. Beaucoup plus que le passage d'une république à l'autre, ce cortège marquait la continuité de la République française.
Oui, mais ça vous fait sourire ce coq des actualités de l'époque. Alors, c'est une république, certes, ça reste une république, et on insiste bien dessus, mais une république quand même très différente des autres, et qui dure depuis 50 ans. Je crois que c'est le deuxième régime par sa durée qui a connu la France. Il y en a eu 16 depuis 1789.
Depuis la Révolution, en tout cas.
Le deuxième. Comment expliquer cette longévité du système qui s'est mis en place et dans lequel nous vivons encore aujourd'hui?
Bon, je pense qu'il y a au moins deux types d'explications. La première explication, c'est que ça correspondait aux besoins d'un pays de la seconde moitié du XXe siècle, affronté à des problèmes considérables et qui, au demeurant, n'ont fait en quelque sorte que s'amplifier, que d'avoir un système politique qui permette au gouvernement de gouverner sans avoir la crainte d'être renversé 15 jours plus tard. Donc il y a un problème de besoin, et de fait, on s'aperçoit que le général de Gaulle, même s'il a été servi par une conjoncture économique particulièrement favorable, c'est l'époque des Trente Glorieuses, globalement a gouverné la France d'une façon qu'on peut considérer comme totalement...
Oui, mais au-delà, parce qu'il est parti à 40 ans, le général
de Gaulle. Il est parti à 40 ans. Et puis alors, la deuxième explication, je crois, c'est sa souplesse. C'est-à-dire que c'est une constitution qui peut être à la fois parlementaire à l'occasion et présidentielle selon le côté de la pente sur lequel on appuie. Et on le verra bien, par exemple, au moment des cohabitations où... il ne sera pas nécessaire de changer la Constitution pour qu'elle puisse malgré tout fonctionner.
Et pourtant, cette Constitution, d'abord, il y a des gens qui en réclament. Enfin, il y a quelques personnes, ils sont très minoritaires. Il faut rappeler quand même une chose, c'est que vous citiez François Mitterrand parmi ses adversaires. François Mitterrand est devenu un défenseur. Même le Parti communiste ne remet plus en cause l'essentiel, les grandes lignes de la Constitution. On parle quand même de 6e République. Et puis, on la réforme beaucoup, cette République. Elle a été réformée en 62 avec l'élection du président au suffrage universel. Mais elle a été réformée tout récemment, en juillet dernier, Serge Bertagne.
Oui.
Est-ce que c'est la même ?
Alors, oui, je crois que c'est la même. C'est la même parce que ce qui fonde l'essence même du système de la Ve République, outre que c'est une république, c'est-à-dire que le peuple est souverain, c'est l'élection qui décide, les libertés fondamentales sont garanties par la Constitution, c'est une république. Mais en même temps, il est clair qu'il est nécessaire de l'aménager en fonction des évolutions qui sont normales dans l'écoulement des années, du temps. De même que la Constitution américaine est corrigée par toute une série d'amendements, on a eu un certain nombre de révisions constitutionnelles. Mais c'est la même pourquoi ? Parce que au sein du système, personne, au fond, ne remet en cause la prééminence du président de la République. On dit parfois qu'elle est trop importante, qu'elle est écrasante, et on le dit en particulier depuis l'élection de mai 2007, mais il n'en reste pas moins que sur ce plan-là, personne n'a jamais véritablement demandé, sauf, c'est vrai, Arnaud Montebourg au Parti Socialiste à un certain
une
moment,
sixième république.
Qu'on en revienne à une république parlementaire.
Oui.
Au fond, alors c'est une des raisons, me semble-t-il, à la fois elle est efficace et elle est souple, qui explique sa durée, comme elle explique d'ailleurs la durée de la Troisième République, qui était faite de trois lois constitutionnelles et même pas d'un ensemble complet. Donc je pense que c'est une des raisons. Et alors d'autre part, bon, c'est vrai quand même que l'esprit public évolue et que du coup il est nécessaire d'aménager le texte constitutionnel.
Merci Serge Bertagne. Je rappelle donc que vous avez dirigé avec Michel Vinocq un livre passionnant, La République recommencée, de 1914 à nos jours, une histoire politique de la France, où il n'est pas question seulement que de la Ve République. Et ça a été publié aux éditions du Seuil, dans les collections Point Histoire. Vous avez également participé à l'écriture d'un dictionnaire, La France de la Ve République, édité sous la direction de Jean Garrigue et qui vient de paraître chez Armand Collin. Vous avez pu entendre des archives pâtées de 1958 et 1959, issues de la collection Le Journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse, et de nombreuses archives de l'INA aussi. Vous pouvez retrouver toutes ces références et d'autres titres de livres sur le même sujet par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Julien Chabassu et Rémi Quincet, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Lise Bédé-Tournion, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, derrière le personnage de légende bien connu, le véritable D'Artagnan.